Ouais, merci Seigneur pour ce temps de louange, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta présence qui est là maintenant, merci pour ce que tu as commencé durant ce temps dans la vie des personnes qui sont là ce matin et merci pour ce que tu vas continuer de faire. Amen. On se réjouit de pouvoir poursuivre ce culte avec un message de David qu'on se réjouit d'écouter ce matin pour voir ce que Dieu a mis sur son cœur. Sois béni.
Allez, on applaudit le Seigneur. Il est vraiment digne d'être loué. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cet amour sans condition. Merci parce que tu es celui qui a pris nos imperfections, nos péchés. Tu as tout pris, Seigneur, pour toi, sur toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, tu es là, tu es dans cette salle. Ce n'est pas juste des chants, ce n'est pas juste de la musique, ce n'est pas juste une atmosphère, mais tu es présent ici dans ces lieux pour toucher les cœurs, toucher les vies. Alléluia. C'est comme si je voyais Jésus au milieu de nous. On voit encore les trous dans ses mains parce qu'il a déjà passé. Il a déjà payé. Il a déjà été à la croix. Il a déjà tout payé. C'est comme si tu passes à la caisse. Quelqu'un a déjà payé pour toi. Il a déjà payé pour toi. Alléluia. Merci au Seigneur. Il y a quelque temps, je vous ai prêché sur la personne du Saint-Esprit. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ce n'est pas juste une partie de Dieu, une partie de la Trinité un peu plus spirituelle. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus branchés, Saint-Esprit, branchés, dons spirituels, qui seraient plus ceci, plus cela, plus charismatiques. Mais que le Saint-Esprit, c'est la personne divine qui est aujourd'hui sur terre. Ce n'est pas le Père qui est sur terre, il règne sur son trône dans le ciel. Ce n'est plus Jésus qui est sur terre. Il est venu, il a accompli sa mission, c'était un extrait quelque part de Dieu sur terre pendant toute sa vie, mais en particulier pendant ses 3 ans de ministère. Et après avoir été tué, c'est-à-dire offert sa vie et qu'il soit ressuscité, il est monté au ciel. Il a quitté la terre et Jésus n'est plus ici sur la terre. Il intercède à la droite du Père au ciel. Mais il a rassuré ses disciples en disant « Ne vous inquiétez pas, je pars, mais je vais vous envoyer un autre ». Et la personne divine sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre relais, si je peux me permettre de dire comme ça. Et c'est pour ça que mon message, il y a un mois, sur le fait de prier par l'Esprit, c'était un peu la suite aussi logique. Parce que si la personne sur terre, la personne divine sur terre est le Saint-Esprit, alors pour parler à Dieu, ben fais-le par l'Esprit. Ça paraît logique. Par exemple, si ton employeur envoie quelqu'un d'outre-mer qui parle en anglais, dans quelle langue est-ce que tu vas lui parler? Est-ce que tu vas continuer de lui parler en français parce que tu es plus à l'aise? Ou bien pour communiquer et que vous compreniez quand même un peu, tu vas faire le saut de lui parler en anglais, même si tu sais peut-être au début que quelques mots, et puis que tu vas devoir te lancer et puis faire un peu ce pas de foi, en quelque sorte, même si tu commences maladroitement. Vous voyez mon parallèle de prier aussi dans la langue de l'Esprit. Et je crois qu'on peut prier le Saint-Esprit, on peut prier Jésus, bien sûr, on peut prier le Père, parce que le Saint-Esprit est là. Et on va surtout, comme l'a dit Paul, et j'ai développé ça dans mon dernier message, pour avoir cette connexion, cette ligne constante avec le ciel en priant par l'Esprit, aussi en priant en langue. Et c'est une clé tellement puissante. Et j'espère que ceux qui avaient entendu ce message il y a un mois, vous avez pu un peu pratiquer ça. Pratiquer un peu ce challenge de prendre du temps et de prier par l'Esprit plutôt que de dérouler notre liste de sujets. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage vraiment à ne pas laisser passer cette pépite. Ne laisse pas passer cette clé vraiment qui change la vie, qui a changé ma vie, qui a changé la vie de Paul et qui change la vie de ceux qui t'entourent. Mais si le Saint-Esprit est la personne divine qui est maintenant sur terre, et c'est une promesse qu'a faite Jésus, Quand il retournerait au ciel, il nous a promis le Saint-Esprit pour tous. Et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment une réalité qui est accessible maintenant à chacun. Ce n'est pas juste une parole en l'air de consolation parce qu'il allait partir, mais c'est la réalité de ce qui allait se produire. Et ça s'est produit. Et dans cette suite, ce qui m'intéresse ce matin, c'est justement l'intention de Jésus quand il ne serait plus là, après être monté au ciel. Qu'est-ce qu'il avait comme idée ? Imaginez, il nous a donné un extrait de vie pendant 3 ans pour démontrer le cœur du Père, de ce que le Père peut et désire faire. Et là, en partant, il nous promet qu'on serait accompagné par un autre que lui. Lui s'en va, mais le Saint-Esprit vient. Mais c'est surtout, et c'est ça, c'est là où je veux en venir aujourd'hui, il va nous partager Et Jésus va partager, avant de remonter au ciel, son testament, si je peux dire comme ça. Et c'est quoi un testament? C'est le souhait d'une personne pour quand elle ne sera plus là. On dit aussi les dernières volontés. Et comme dans les films, des fois, on voit une famille qui est convoquée chez le notaire, qui ouvre une enveloppe tout lentement, et puis qui va dire « voici les dernières volontés du défunt ». Et c'est déterminant pour le reste de la famille, et ce sont ces mots qui comptent le plus que le défunt a pu écrire pour la suite, que ce soit des mots pour léguer des biens ou bien des directives encore qui vont être données. Et c'est un principe qui est fort. C'est encore plus fort quand la personne de son vivant, elle s'entoure des personnes qui lui sont chères pour communiquer encore les derniers mots, les dernières volontés, les derniers souhaits. Figurez-vous que c'est ce que Jésus a fait. Non seulement il avait promis qu'un autre viendrait à sa place, mais avant de quitter la terre et de remonter au ciel auprès du Père, il s'est entouré des siens, de ses disciples, et il leur a dit ses dernières volontés. Dans le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus ressuscité se montre à ses disciples, il va leur dire qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il leur transmet la mission d'annoncer l'évangile, de baptiser les gens, de transmettre tout ce que Jésus leur avait dit, tout ce qu'il leur avait dit pendant les 3 ans. Et il transmet quelque part aux disciples ce mandat céleste de continuer ce qu'il faisait. Et les évangiles nous montrent ce qu'il faisait. Il était avec les gens, il aimait les gens, il prêchait, il priait pour les gens, il les amenait au salut, à être guéris, à être délivrés. Luc, un autre évangéliste qui a aussi son livre dans le Nouveau Testament, transmet de façon complémentaire les derniers mots de Jésus. Il dit que juste avant de monter au ciel, qu'est-ce que leur a dit Jésus, comme dernière quelque part volonté? Il a dit, je vous avais dit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc il est en train de leur dire, je vous avais prévenu que j'allais mourir et qu'après 3 jours j'allais ressusciter. Et vous avez été témoins que c'était vrai. Mais la suite, elle est aussi vraie, c'est que je vais retourner vers le Père et que je vais vous envoyer une puissance. Il faudra juste attendre dans la ville et je vais la déverser sur vous. Et ça s'est produit à la Pentecôte. J'aime beaucoup Marc, un autre évangéliste, qui transmet les dernières volontés de Jésus. Et c'est tellement parlant. Je l'avais mentionné dans mon dernier message sur la prière par l'Esprit. Mais voilà ses derniers mots, ses dernières volontés avant de monter au ciel. Et il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Imaginez, c'est comme chez le notaire, les derniers mots du défunt, quelque part. Jésus nous a laissé un mot et une volonté qui nous a été transmise par les apôtres qui ont écrit ça, et on a la chance d'avoir ce livre, la Bible, aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment ce que nous dit ces mots, ces dernières volontés de Jésus. C'est d'aller témoigner la bonne nouvelle, d'aller baptiser les gens. Et ensuite, il est en train de leur dire, et voilà les miracles qui accompagneront. Et c'est quoi ces miracles? Comme le dit ce verset, c'est qu'en mon nom, ils chasseront des démons. Et on a pu, pendant toute l'année passée, dans les différents groupes ressources, prendre un livre ensemble, l'étudier, prier pour ça, sur le combat spirituel. Et puis ensuite, il dit, ils parleront des nouvelles langues. C'est ce que j'ai prêché le mois passé. Ce n'est pas juste un truc bizarre pour les plus spies. C'est ce que Paul dit qu'il fait le plus que tous, et c'est ce qu'il encourage à tous de vivre. Et que ça fait partie des derniers mots de Jésus. Ce n'est pas rien. C'est son souhait, son testament. Ce n'est pas une option pour les plus illuminés d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. C'est une protection contre le mal, contre les attaques physiques et je dirais même spirituelles. Ce qui veut nous tuer, ce qui veut empoisonner quelque part ta destinée et l'appel qu'il y a dans ta vie. Ces scorpions, ces serpents ne te feront pas de mal. Mais surtout, qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement ce matin. Ce sont les derniers mots des derniers mots, les derniers mots de la fin des dernières volontés de Jésus. Il est mis qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est en lisant ce passage, quand je préparais il y a un peu plus d'un mois le message que j'ai fait sur prier par l'Esprit, qu'en lisant ce dernier texte de Jésus avant de monter au ciel, que ça m'a fait vraiment tout à coup tilt de nouveau, ça m'a titillé. Si on vibre sur le fait de prier pour les malades, et qu'on en a déjà parlé, on en a déjà prêché, on l'a déjà vécu, on a déjà prié pour ça, qu'on commence à voir des guérisons et on aimerait en voir tellement plus, ces mots, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est comme imposer à moi. Alors, priez pour les malades, ok. Priez avec foi parce que Jésus a déjà porté nos maladies et nos péchés à la croix, ok. Mais pourquoi ? Pourquoi imposer les mains, en fait, s'il a déjà tout payé ? Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche un petit peu là-dessus, non pas comme un sujet intéressant, mais justement, d'où la raison de mon introduction, ça fait partie, comme témoigner, comme prier en langue, des derniers désirs que Jésus nous transmet avant de partir. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas anodin, c'est même importantissime. Pas juste annoncer la bonne nouvelle, mais baptiser. Pas juste prier, mais prier par l'Esprit, prier en langue. Pas juste prier pour les malades, mais imposer les mains. Et même si dans notre culture chrétienne d'aujourd'hui, je pourrais dire c'est normal, c'est courant d'imposer les mains, on le voit, on le fait, on l'a vu faire, on le fait aussi. Mais pourquoi, posons-nous la question, pourquoi quand on prie pour quelqu'un, à quoi ça sert de poser la main sur l'autre ? Dieu nous entend pourtant, ce n'est pas en posant la main sur quelqu'un puis une main au ciel qu'on aura un meilleur réseau 5G ou je ne sais pas quoi, non. Il nous entend, pourquoi on doit poser les mains sur les gens. Et la première imposition des mains qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, se trouve dans Genèse 48, lorsque Jacob il bénit Éphraïm et Manassé. Jacob il étend ses mains sur ses petits-fils, il bénit son fils aussi Joseph, et il dit que le Dieu devant qui ont marché mes pères Abraham et Isaac bénisse ces jeunes garçons. Et c'est la première fois dans la Bible que quelqu'un impose les mains sur une autre pour bénir. Est-ce qu'on retient que pour transmettre à ses fils, ses petits-fils, la bénédiction, Jacob ne va pas juste dire une prière, mais il va poser ses mains et bénir. On voit aussi ça dans Nombre 27. Moïse, il prie Josué et il le fit se présenter devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit. Et là, c'est intéressant, la suite. Josué, fils de Noun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse impose les mains à Josué pour lui transmettre une part d'autorité. Ce n'est pas anodin. D'ailleurs, Deutéronome 34, 9 nous dit carrément, je cite, « Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. » C'est clair. Et c'est la première fois que l'esprit est explicitement lié à une imposition des mains dans la Bible. Quelque chose se passe quand on impose les mains sur quelqu'un, quand on prie pour lui puis qu'on y pose les mains sur l'épaule. Et pour réaliser vraiment ce principe, ce fondement, regardons encore du temps de l'Ancien Testament dans Lévitique 1, il est mis « Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il posera la main sur la tête de l'animal qui sera ainsi accepté comme une offrande pour obtenir le pardon. » Et là, c'est puissant, parce que le péché de tout le peuple était transmis par imposition des mains sur l'agneau, sur la bête, et c'est l'animal qui recevait le péché pour le peuple puis qui allait payer à la place de tous. Et ce qui est fort, c'est que ce n'était pas juste une prière où on dit que l'animal prend les péchés et puis que tout le monde est pardonné et elle est belle et on recommence. C'était vraiment, mais en préparant ce message, c'était pour moi comme une révélation. C'est une transmission qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Il y a le tout. Et pour moi, c'est un début de réponse de pourquoi imposer les mains. En fait, c'est un acte, dans ce cas-là aussi, avec cet agneau, c'est spirituel. Quelque chose se passe dans l'esprit. Il y a des péchés qui vont sur l'animal. C'est un acte aussi où il y a toute l'âme qui est là, dans le sens qu'on y met son cœur, le sacrificateur priait par l'intelligence, il le faisait vraiment humainement. Et physiquement, les mains étaient posées sur l'animal, et le péché était transféré, la culpabilité allait sur cette bête qui allait payer pour tous. Et l'imposition des mains, c'est un transfert. Il y a un transfert qui se fait, esprit, âme et corps. Ce n'est pas juste une prière dans l'esprit, ce n'est pas juste une repentance du cœur qu'il faisait, mais c'était un transfert total qui passe par les mains physiquement posées sur la tête de l'animal. Et déjà, quel signe puissant. C'est là qu'on voit que la loi de l'Ancien Testament, justement qu'on vient de lire avec Lévitique, qui est parfois si rébarbative à lire, avait des principes qui préparaient les cœurs à ce que plus tard, Dieu lui-même vienne prendre les péchés de l'humanité. Et on l'a chanté, l'agneau. On vient de le chanter, juste le dernier chant, cet agneau immolé. Jésus va venir comme cet agneau parfait qui va prendre les péchés de tout le monde. Et ce passage bien connu d'Ésaïe 53 qui a été écrit 700 ans environ avant que Jésus vive ce transfert en prenant les péchés et nos maladies à la croix. Au verset 5, il est dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, ses meurtrissures. Et au verset 7, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Et il va y avoir un transfert de l'humanité entière sur cet agneau parfait, Jésus, qui va prendre tous les péchés, toutes les maladies, les malédictions, et être ce sacrifice pour tous. Et sans jouer avec les mots, parce qu'il n'y a pas eu d'imposition des mains en particulier sur, d'un sacrificateur sur la tête de Jésus, l'agneau. Pardon, mais j'ai été frappé par les textes des évangiles où il est mis, par exemple, dans Matthieu 26, 45, « L'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Et Jésus a été remis entre les mains d'une foule menée par Judas, notamment, par les principaux sacrificateurs et une foule armée, quand ils sont venus le chercher dans le jardin, armée de bâtons et d'épées. Et de façon horrible à dire, ils sont venus chercher l'agneau à sacrifier. Et Marc 14, 41 nous dit « Aussitôt Judas s'approcha de Jésus, ils mirent les mains sur lui et se saisirent de lui. » Ils ont mis la main sur lui, sur sa tête, ils ont déposé cette couronne de douleur et de mépris, en tout cas sur la croix, et le transfert se fait et Jésus prend le péché de tous. Et la croix, c'est juste une parenthèse dans ce que je dis aujourd'hui, mais c'est tellement puissant et tellement important. Parce que si par le transfert, les mains posées sur l'animal sacrifié, le mal passe, comme un transfert corps-âme-esprit, de même, par l'imposition des mains, la bénédiction, la vie, la guérison, elle passe aussi. Imposer les mains, c'est un canal. Et si Jésus a pris sur lui, et que ça a passé dans un sens, qu'il a pris sur lui, lui qui vient en nous par son esprit, nous qui sommes son temple, il peut transmettre par ce même canal, ce même vecteur, esprit, âme et corps, par les mains qu'on va poser sur les gens, la vie qui est en nous aussi. Combien c'est puissant. Et ce qui m'a frappé, c'est quand Jésus va au bout, à l'instant T du sacrifice. Alors qu'il meurt, en prenant tous nos péchés, maladies, malédictions, Jésus va s'écrier d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit ces paroles, il expira. Et alors que les hommes ont mis la main sur lui, l'ont frappé et finalement même transpercé les mains, il va remettre son esprit entre les mains du Père. Les mains du Père accueillent ce que les mains des hommes ont détruit. Et par là, Jean 10, 28 nous dit, et c'est une dimension que je trouve vraiment forte, Jésus dit « À mes brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Et la vie éternelle, cette vie puissante et spirituelle qu'on peut déjà vivre ici sur terre, pour toujours, elle est libérée. Il y a un transfert. Les péchés transmis en quelque sorte, entre guillemets, par la main que les hommes ont portée sur Jésus, de façon imagée, et la vie éternelle puissante que Jésus communique en nous tenant dans ses mains. Il y a un transfert. Si ce transfert par l'imposition des mains va dans un sens, c'est-à-dire le mal et le péché sur l'agneau, l'imposition des mains est le vecteur où la vie est aussi répandue dans l'autre sens. Du Saint-Esprit en nous, cette puissance qui est là, dans nos entrailles, qui bouge, qui va passer sur les autres quand nous leur imposons les mains. Comme ce principe du transfert puissant. Et j'avais besoin quelque part moi-même de réaliser ça. Parce qu'on sait qu'il est mis d'imposer les mains aux malades, mais de réaliser que si je crois que le péché a passé sur l'agneau, comme il le faisait à l'époque de l'Ancien Testament, je vais croire aussi que la vie passe par ce canal. Si je crois que la malédiction, la maladie passe par les mains portées sur Jésus qui va les prendre sur lui, alors si j'y crois, je vais aussi croire que la guérison et la bénédiction va passer par les mains que je pose sur les gens. Et après avoir vu ce principe d'imposition des mains, de bénédiction dès le début de la Bible, qui était pour bénir, pour transmettre l'autorité, qui a ce principe de transfert dans l'Ancien Testament avec cette image de l'agneau. Enfin, ce n'était pas une image de l'Ancien Testament, mais ça l'est dans le Nouveau par Jésus. Et avant de nous plonger dans ce que Jésus faisait et aussi de ce qui se vivait dans la première Église, j'ai cette pensée qui m'est venue de ce verset qu'on cite parfois en priant, qui dit la chose suivante, « Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour agir. » Et j'entendais ces mots du Seigneur qui me disaient « Mais mon bras, ma main, c'est l'image de mon action, de ma puissance en action qui rejoint les circonstances pour les transformer. Mes mains qui bénissent, restaurent, guérissent et fortifient. Alléluia. D'ailleurs, si on regarde un peu le contexte de ce verset, c'était du temps de Moïse, après la libération d'Égypte, le peuple s'est retrouvé dans le désert et ils avaient tous faim, ils commençaient à se plaindre, ils étaient ingrats, ils réclamaient de la viande, ils en avaient marre de la manne tous les jours. Et à force, Moïse, il commençait aussi à fatiguer, à être à bout. Et il déverse son cœur vers le Seigneur, il dit « J'en peux plus, tu nous as libérés, maintenant on est là dans ce désert » et ils râlent tous parce qu'ils veulent manger autre chose. Et le Seigneur lui dit de proclamer au peuple la promesse qu'on voit dans Nombre 11, 18, que malgré le désert, dès le lendemain, ils mangeront de la viande, et même pendant un mois entier jusqu'à ne plus pouvoir en manger. Le genre de promesse impossible vu les circonstances, et ça met Moïse sous pression, il ne comprend pas, et il va dire à Dieu, « Mais ce peuple qui m'entoure compte 600 000 hommes, et tu dis que tu leur donneras de la viande à manger pendant un mois entier ?» Même si on tue pour eux tous les moutons, les chèvres et les bœufs, ça ne suffirait pas. Même si on prend tous les poissons, ça ne suffirait pas. Et justement, c'est là, dans Nombre 11, 23, que l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai été dit arrivera ou non. » Et on comprend la réponse de Dieu qui lui dit, « Mais est-ce que tu crois que ma main n'est pas assez longue ? Est-ce que tu crois que je ne suis pas assez puissant pour répondre ? » J'ai voulu gratter un mot, et le mot hébreu utilisé par la main, c'est yad, et son sens premier veut dire tant la main que la puissance. Ça désigne la main physique, mais par extension, le bras entier, la force. C'est pour ça que des fois on dit le bras de l'Éternel, mais c'est la main de l'Éternel et pas trop courte. La main de l'Éternel, c'est un symbole de la puissance de Dieu, de la capacité d'agir de Dieu, l'action de Dieu au-delà des impossibilités, au-delà du naturel. La main du Seigneur a agi dans ce cas-là. Et on voit plus loin un miracle. Il y a un vent qui s'est levé de la part de l'Éternel qui amena dès le lendemain des cailles depuis la mer. Il en fait tomber partout autour jusqu'à un jour de marche tout autour du peuple. Il y en avait partout. Quand la main du Seigneur bouge, le miraculeux est libéré. Quand la main du ciel vient toucher la terre. Et on voit aussi dans Ésaïe 59, quasi le même verset. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et la main, c'est ce symbole de la puissance qui touche la terre, ce Dieu du ciel qui nous rejoint et qui agit. Et dans cette optique-là, je trouve tellement fort d'imposer les mains. Nous imposons nos mains non seulement comme un transfert de vie, non seulement comme une bénédiction ou de guérison, comme on a vu avant, mais aussi comme un acte de foi du symbole de la main puissante de Dieu qui bouge, qui n'est pas trop courte et qui agit depuis le ciel sur la terre. Waouh ! Et pour moi, c'était vraiment... Quand je réalisais ça, pour moi, c'était comme une révélation. Je préparais ce message chez moi, j'ai applaudi le Seigneur tellement j'ai trouvé fantastique. Parce qu'en fait, on impose les mains, mais des fois, on ne sait même pas pourquoi on le fait. C'est parce qu'on a vu d'autres le faire ou on sait que c'est marqué. Mais je réalisais la puissance qu'il y avait derrière. Gloire à Dieu pour cette révélation et l'action de sa main qui vient changer des situations. C'est puissant d'imposer les mains. Et je n'avais jamais réalisé ça à ce point-là. Ça peut tellement être une habitude ou même du mimétisme de ce qu'on a vu. Mais de réaliser le sens qu'il y a derrière ça, ça donne une autre dimension. Moi, souvent, dans un temps d'appel, quand on prie, des fois, quand je prie et j'impose les mains, souvent, je dis, « Seigneur, tu poses ta main. Seigneur, tu poses ta main. » Et je crois que c'est vraiment ça. C'est d'affirmer aussi que la main de Dieu, elle n'est pas trop courte pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Et qu'il pose lui-même, en plus de ma main, physiquement, ici, qui transmet la vie de l'esprit, c'est un transfert aussi de ce qu'il y a en moi, de la vie qu'il y a en moi. En plus, il pose aussi sa main. Il y a sa main qui bouge. Que la main de Dieu touche la personne qui a besoin d'être bénie, qui a besoin d'être guérie ou d'une intervention de Dieu. Et l'imposition des mains, et non seulement elle est un canal, mais si on réalise ce symbole de la main de Dieu, c'est un acte de foi. Aussi, même si je ne sens rien, je vais imposer les mains comme pour libérer et je crois que Dieu va bouger sa main et poser sa main sur la personne. Et j'espère que cette pensée vous encourage. Moi, ça me booste et ça me donne envie, pas juste de prier, mais d'imposer les mains quand je prie. Imposer les mains, en plus de communiquer quelque chose comme un canal de vie en nous, cette main de Dieu qui touche la terre. Et je trouve particulièrement fort aussi si on pense à l'image d'un Corinthiens 12 où Paul parle de l'Église, puis il dit « Vous êtes le corps de Christ et chacun pour sa part un de ses membres. » Chaque membre du corps a une fonction, mais la main, quelque part, la main, c'est ce qui va toucher le monde. Et sans la main, un corps il voit, un corps il pense, un corps il désire, il marche, mais il ne va pas toucher le monde. Et en imposant les mains, nous qui sommes l'Église, c'est le corps de Christ, c'est Jésus lui-même qui impose les mains au monde. Parce que l'Église est le corps de Christ. Donc si on pose nos mains, nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes l'Église, c'est comme si Jésus aujourd'hui était physiquement sur terre par l'Église que tu es, que je suis, en imposant les mains. C'est le corps de Christ qui pose ses mains sur le monde. Et l'Église en général, et en tant qu'Église passion, moi j'ai envie qu'on soit ce corps inspiré, rempli de la vie de Dieu. Et comme on aime le dire souvent, la tête au ciel, mais les pieds sur terre. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire la tête au ciel, le corps rempli de la vie du ciel et les mains qui touchent le monde. Et les mains qui touchent le monde. C'est-à-dire la main, le bras de Dieu en mouvement pour rejoindre, pour sauver, pour guérir, pour bénir le monde. Et c'est ce que la première église de Jérusalem a déjà voulu. On le voit dans les Actes, chapitre 4. Alors que Pierre et Jean viennent de sortir de prison, ils se rassemblent, ils rassemblent tout le monde et ils prient. Et il est dit dans Actes 4, 29, « Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Il prie que cette main de Dieu bouge et touche la terre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand Dieu bouge sa main, c'est plutôt efficace. Au verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Quand on impose les mains, on permet à Dieu d'étendre sa main, et le surnaturel est libéré. « Étends ta main, qu'il se produise des signes et des prodiges. » C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce message. Et c'est un verset, c'est aussi une prière à Dieu et c'est aussi une, quelque part une invitation à nous étendre nos mains pour qu'il se produise des signes et des prodiges. Et là, avec toute cette compréhension de ce que ça signifie, imposer les mains, on arrive au point de mon message que j'aime toujours arriver. C'est Jésus. Comment est-ce qu'il agissait par rapport à ça ? J'aime toujours revenir à Jésus qui est non seulement notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, mais qui est aussi notre modèle. Et si on veut croire comment Dieu agit sur terre et comprendre comment il veut toucher la terre, eh bien Jésus c'est vraiment l'exemple par excellence parce que c'était Dieu sur terre, dans la peau d'un homme. Et j'aime rester christocentrique, c'est-à-dire centré sur Christ. Tout ramener à lui pour qu'on soit toujours plus comme lui et être ses disciples. Et Dieu physiquement sur terre par Jésus qui touche le monde, comme lui transmet le message de la vie, notamment en imposant les mains. Combien de fois on voit Jésus vraiment parler à des gens, prêcher, guérir en imposant des mains. Jésus, durant ses 3 ans, souvent en déplacement, et précisément dans les synagogues où des foules qui se rassemblaient comme des immenses réunions, il enseignait à la foule, puis ensuite il priait pour les malades. Et il y aurait tellement d'exemples, je pourrais vous en parler tout le matin. Mais je vais juste vous en dire 2-3. Dans Luc 13, Jésus est en train de prêcher dans une réunion comme ici. Or, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, et ça c'est une prière, déclaration du ciel sur la terre, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Et il fait une prière du ciel sur la terre, il déclare que son corps doit s'aligner à la volonté qui est au ciel pour elle, et c'est au moment où il pose sa main sur elle qu'elle se redresse, alors que ça fait 18 ans qu'elle est courbée et qu'elle n'arrive plus à se relever. Les mots inspirés sont puissants, mais Jésus a aussi imposé les mains, et c'est à ce moment-là que ça s'est passé. La puissance de Dieu passe par sa main, et la femme est guérie. Luc 4, 40, il a fait ça avec une foule de malades, quasi à la chaîne. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des maladies atteintes des maux les plus divers, les amenèrent à Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Sur chacun, il a imposé les mains et ils étaient guéris. Et on pourrait encore en citer, il imposa les mains à la belle-mère de Pierre qui est guérie, il impose les mains à un lépreux qui devient pur et guéri et j'en passe. Et si on regarde Jésus, il n'y a pas de méthode unique, il n'a pas fait toujours pareil. Si on analyse toutes les guérisons que Jésus a fait dans les évangiles, seulement celles qui sont relatées, hein, parce que c'est juste un aperçu. Parce que la Bible nous dit dans Jean 21 que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous imaginez ? C'est Jean qui dit ça. Donc c'est la Bible, c'est la vérité. Il a fait tellement de choses qu'il n'y aurait pas assez de place sur terre pour les livres de ce qu'il a fait. Mais dans les échantillons qu'on a dans les évangiles, on voit qu'environ une fois sur trois, quand il guérit des gens, il va juste prier. Une fois sur trois, il va imposer les mains. Et puis, le dernier tiers, c'était soit des gens qui guérissent carrément à distance ou ce n'est pas précisé. Mais très souvent, Jésus agissait par cet acte de foi en imposant les mains et quelque chose se passait. D'ailleurs, c'est intéressant, ce n'est pas de l'imposition des mains, mais d'ailleurs, la femme qui touche son vêtement, elle vient chercher comme cette guérison, elle va le toucher et à ce moment-là, elle va être guérie. C'est comme si elle posait sa main et il y a un transfert qui se fait. Ça passe par là. Même si la parole suffirait, il y a quelque chose qui passe par le toucher. Et Jésus, il n'est pas limité à ça. On n'est pas limité à ça. Tu peux prier pour quelqu'un par téléphone, ça marche aussi. Mais c'est plus qu'un symbole quand même d'imposer les mains. La vie passe. La main de Dieu se met en mouvement et l'action de Dieu est libérée. Et c'est fort. Et ce que j'aimerais dire, c'est que les 3 ans du ministère de Jésus sur terre, c'est la bande-annonce du film qu'il désire que tu puisses vivre, qu'on puisse vivre nous. Pendant toute notre vie. C'est juste la bande-annonce, les 3 ans de ministère. Et ce film, j'ai envie de le vivre. J'ai envie de vivre le scénario qu'il a prévu pour ma vie, qu'il a prévu pour cette église, qu'il a prévu pour son église et cette région, ce pays. Et quand on voit Jésus prêcher, prier pour les gens, mais aussi imposer les mains, moi, je ne veux pas passer à côté de ça. Je veux vivre pleinement le scénario qu'il a prévu. Et on le voit aussi d'ailleurs, ça nous mène à la suite, on le voit dans le livre des Actes, la première église, ils ont imposé les mains aussi pour libérer les gens dans leur appel. C'est intéressant, pas seulement pour prier pour la guérison, mais on voit que les apôtres ont imposé les mains dans Actes 6 pour consacrer au ministère, notamment Étienne, Philippe, qui avait un ministère de service, de diacre, mais aussi un envoi dans Actes 13 où les prophètes et enseignants d'Antioche ont imposé les mains à Paul et Barnabas pour les envoyer dans ce voyage missionnaire. Ils ont aussi imposé les mains pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 8, 17, Pierre et Jean, ils vont à Samarie, parce que l'évangéliste Philippe, il y a des gens qui sont convertis, puis eux, ils vont aller imposer les mains à ces personnes qui sont converties pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Dans Actes 9, c'est Paul lui-même qui reçoit l'imposition des mains d'Ananias, puis qui est rempli du Saint-Esprit. Et plus tard, c'est Paul qui va visiter, qui va prier les chrétiens d'Éphèse en leur imposant les mains, dans Actes 19:6, et ils vont recevoir le Saint-Esprit, parler en langue et prophétiser. C'est fou, c'est justement comme pour mon message sur le parler en langue. C'est des choses qu'on connaît, qu'on pratique plus ou moins, mais c'est tellement présent dans la vie de Jésus et c'est tellement présent dans la première Église. Et parfois, on croit que c'est juste un peu accessoire, un peu pour l'esprit ou je ne sais pas, mais le parler en langue est tellement présent, l'imposition des mains est tellement présente et claire. Et ça amène surtout les fruits qu'on veut. Et on voit aussi Paul qui parle au jeune Timothée qu'il a lancé dans le ministère, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Dans la première église, on imposait les mains pour bénir, remplir du Saint-Esprit et aussi pour transmettre, on le voit là à Timothée, un don spirituel, que le Saint-Esprit venait par l'imposition des mains. Alors pourquoi en 2025, on se dirait qu'on peut être un peu plus réfléchi puis faire autrement ? Comme Jésus, les apôtres ont imposé les mains aussi pour guérir les malades. Dans Actes 28, il est mis que le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et une grave infection intestinale. Et Paul s'est rendu vers lui, il a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Et rien que dans le livre des Actes, on voit qu'ils imposaient les mains pour envoyer, libérer dans l'appel, pour guérir, pour transmettre le Saint-Esprit, pour guérir les malades. C'est tellement fort de voir comment Dieu touche le monde avec cette révélation du bras de Dieu, de la main de Dieu qui n'est pas trop courte. Et c'est comme ça qu'il agissait dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que Jésus bénissait et guérissait. Et c'est comme ça que les apôtres et la première église faisaient. Et des fois, on se dit, mais on aimerait tellement vivre les mêmes fruits qui se passaient à l'époque de Jésus ou dans les Actes. Mais c'est pour ça que ce matin, il veut dépoussiérer le moyen qu'il a mis en place aussi. Et qu'il veut redonner sens et puissance à l'imposition des mains dans l'église et dans nos vies. Et le groupe louange, vous pouvez venir, je vais conclure encore juste une ou deux pensées. Mais pour conclure, on l'a vu au début, les derniers mots de Jésus, son testament pour nous, sa dernière volonté pour toi et pour moi, c'est voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ces choses sont tellement importantes vu l'emphase de Jésus, c'est ses derniers mots, les derniers mots avant qu'ils partent, qu'au final, on est quand même des fois assez tenté de les délaisser. On a un peu fait le tour, on connaît tout ça, mais des fois on ne connaît pas forcément la profondeur qu'il y a et l'impact derrière, la puissance qu'il y a derrière l'imposition des mains. Et alors que je méditais là-dessus, j'entendais ces mots du Saint-Esprit, qui me disaient, c'est ça un réveil. C'est quand je viens dépoussiérer ce qui a déjà été entendu et reçu. C'est quand je viens réveiller ce qui est là et qui est en mode veille. C'est quand je viens donner vie et un plein impact aux outils et aux manières de faire que j'ai enseignées, démontrées par l'exemple, et aussi soulignées à pratiquer avant de m'en aller. Prenez ma parole avec sérieux et suivez-moi dans votre vie, votre style de vie, vos choix, votre intégrité, mais aussi dans ce que j'ai enseigné, de comment prier par l'esprit, comment marcher par la victoire, malgré les tentations, les serpents, les scorpions, et comment bénir et guérir en imposant les mains et en transmettant la vie. Je cherche des vases d'honneur qui se déversent, qui sont remplis de ma vie, de qui je suis, et comme des vecteurs, comme des canaux, se déversent dans la vie de leur entourage. Cela commence par être rempli de ma vie, de mon esprit, mais ça continue en transmettant et en se donnant et en bénissant. Amen. Et comme on l'a déjà dit, ça commence déjà par être rempli. On se connecte à l'esprit, notamment en priant par l'esprit. On va dans sa présence, on est touché par lui. Cette source d'eau qui coule en nous, finalement, elle déborde. Mais on réalise plus que jamais ce matin que cette vie, elle va couler sur les autres, notamment au travers de nos mains. On dirige quelque part le flot sur les autres, comme un canal, une main qui touche le ciel et puis l'autre qui touche la personne. C'est comme un robinet qu'on ouvre, et on ouvre le robinet sur quelqu'un. On impose les mains. Et le Seigneur aimerait dépoussiérer et ôter cette retenue, qu'elle soit culturelle ou liée à notre tempérament ou à notre prudence. Or, c'est vrai qu'il y a un passage dans la Bible, dans 1 Timothée 5:22, qui dit « N'imposez les mains sur personne avec précipitation ». C'est un verset que vous avez peut-être entendu, qui peut nous amener à une sorte de prudence, au final, qui nous freine. Alors qu'en fait, ce que Paul dit dans ce passage, il est en train de parler de la gestion de reconnaître des responsables, de ne pas se précipiter à nommer des gens dans des responsabilités, d'être prudent, parce que même s'il y a des dons, il y a toute une transformation de caractère qui doit encore se faire. Il n'est pas du tout en train de mettre un bémol sur l'imposition des mains, pas du tout, mais sur le fait de reconnaître trop vite quelqu'un dans une responsabilité. C'est ça qu'il est en train de dire dans ce passage. Et au contraire, on voit qu'il nous a dit dans Hébreux 6, et là je cite Hébreux 6, « Il est temps pour nous de grandir dans le Christ. Les vérités fondamentales sont en place, c'est-à-dire tourner le dos au salut par l'effort personnel et se tourner vers Dieu avec confiance. L'instruction sur les baptêmes, eau et esprit, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, avec l'aide de Dieu, nous resterons fidèles à tout cela, mais il y a tellement plus, mettons-nous au travail. » Fin de citation d'Hébreux 6. C'est fort. Ça nous dit que c'est juste la base et qu'il y a tellement plus. Qu'on puisse mettre en pratique ces derniers mots que Jésus nous a laissés avant de monter au ciel, d'imposer les mains. Et cet homme de foi que peut-être certains connaissent, Kenneth Hagin, a dit la chose suivante. « Tout croyant peut, par la foi, imposer les mains aux malades et cela produira son effet. » Si un croyant rempli de l'Esprit persévère dans la prière et attend Dieu, il sera comme chargé de cette puissance et sentira la force de Dieu s'écouler de lui. Et ce n'est pas que des mots, il y a tellement de gens qui ont été guéris par le ministère de cet homme. Et c'est pour ça que cette pensée de prêcher sur ce sujet, c'est vraiment imposé à moi. C'est un fondement de réaliser que c'est un symbole de la main de Dieu qui agit. Que c'est une transmission, qu'on est comme un canal, un vecteur, où la vie de Dieu passe au travers de nous pour les autres. Et que c'est un acte de foi, parce que même si on ne sent rien, c'est un acte de foi de la main de Dieu qui vient bouger et toucher la terre. Et c'est un principe spirituellement tellement fort que l'imitateur, l'ennemi de nos âmes, vient voler ça. Il vient voler ça. Et on en a parlé il y a 2 semaines avec Jacqueline Frézard. Il a tenté de voler à l'Église l'imposition des mains, la voler et se l'approprier pour lui. Et puis tout ça, ça se passe dans des trucs un peu bizarres où les gens ils font du magnétisme, où ils posent des mains dans des choses de physio et autres, où ça déborde sur plein de choses de pratiques, où finalement, il y a plus les gens hors de l'Église, les non-chrétiens qui imposent les mains que l'Église. L'ennemi est un voleur et un imitateur. Et nous, en tant qu'Église, on veut se réapproprier cette imposition des mains qui est tellement puissante, comme on vient le voir, avec ce transfert de vie. Et je crois que c'est vraiment le moment de ne pas se laisser voler et de réaliser pleinement la puissance qu'il y a dans l'imposition des mains. Ce n'est pas juste une façon de faire, mais c'est ancré en Dieu. C'est la démonstration physique de la main de Dieu qui bouge. Il y a quelque chose qui se passe au travers de nos mains. Et d'ailleurs, dans les 2 derniers messages, et c'est ma dernière citation avant de finir, je vous avais parlé de John G. Lake, cet homme qui a vu d'innombrables vraiment guérisons. C'est lui qui avait mis le virus de la peste dans ses mains, puis qui avait été guéri, où les cellules disparaissaient tellement il avait la puissance de Dieu en lui. Il a dit la chose suivante: le véritable secret du ministère de guérison consiste à laisser la grâce de Dieu dans ton cœur s'écouler à travers tes mains et tes nerfs jusque dans la vie de l'autre. Et à un moment donné, tu poses tes mains et la vie, elle passe au travers tes mains, tes nerfs, elle touche l'autre. C'est ça le vrai secret qu'il disait. Et moi, je crois que ce matin, Dieu est là, dans cette salle, pour nous remplir tout à nouveau. Qu'on soit tellement plein de lui, plein de sa vie, de sa présence, de sa puissance, que ça nous démange de poser les mains sur quelqu'un puis de transmettre ça aux gens qui nous entourent, qui ont des besoins dans notre vie de tous les jours. Et il nous rappelle qu'on peut le faire par nos mots qui bénissent, qui proclament, mais aussi par ce canal où tout notre être est impliqué, esprit, âme et corps. Autant avancer en utilisant ces 3 pistons, esprit, âme et corps, que de se contenter d'avancer sur 1 piston, sur 2 pistons. Même si on peut quand même avancer, c'est tellement plus puissant quand on prie avec l'esprit, l'âme et le corps et qu'on manifeste en imposant les mains la puissance de Dieu qui se manifeste. Je propose qu'on se lève, j'aimerais prier déjà tous ensemble. Je ferai à la suite de ça aussi un appel. Mais Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes dépoussiérer, c'est ça un esprit de réveil. Libère un esprit de réveil au milieu de nous pour dépoussiérer ces choses qui sont là dans la Bible, la prière par l'Esprit et ce matin, cette imposition des mains qui est tellement puissante. Et Seigneur, on veut être impacté par cette révélation qu'il y a derrière de qu'est-ce que c'est vraiment plus qu'un acte qu'on a vu faire par d'autres. Viens redonner du sens, une dimension de ton esprit, une profondeur, une puissance. Viens remplir nos vies qu'on puisse vraiment déborder et donne-nous l'audace d'imposer les mains, de communiquer la vie à ceux qui nous entourent, qui ont des besoins, qui ont besoin d'une intervention de Dieu, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être touchés par ta vie, qui ont besoin du Saint-Esprit, qui ont besoin de dons de l'Esprit. Et je te prie, Saint-Esprit, ce matin, viens confirmer ta parole par ton esprit de révélation et par ta puissance ce matin. Viens toucher les cœurs, Seigneur, au-delà des mots, des textes, des versets, des citations, Seigneur, que j'ai pu dire. Viens, Saint-Esprit, mettre cette conviction en nous de cette puissance qu'il y a en toi et cette puissance qu'il y a dans ce transfert. Toi, l'agneau qui a pris la maladie, qui a pris les malédictions, qui a pris les non-exaucements pour qu'on soit exaucé, pour qu'on soit libéré, pour qu'on soit guéri au nom puissant de Jésus. Et on va prendre juste un bout de chant et à la suite de ce chant, je vais faire vraiment un appel si vous avez besoin que quelqu'un aujourd'hui puisse vraiment poser ses mains sur vous pour être touché. Je prie vraiment que vous puissiez aussi vous avancer.
Juste avant qu'on qu'on prenne ce bout de champ. J'ai vraiment, c'est un peu bizarre, mais je sentais que Dieu faisait un appel pour qu'on sorte nos mains, nos poches. Dieu a placé des tels trésors dans nos vies. Le Saint-Esprit, on est l'habitation du Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu te dit, sors les mains de tes poches. Je veux que tu transmettes ce que j'ai placé en toi. C'est des choses tellement précieuses. Le trésor que j'ai mis en toi, il n'est pas que pour toi, mais transmets-le. Transmets-le. Alors c'est un peu un appel bizarre, mais peut-être que physiquement tu peux mettre tes mains dans les poches et dire ce matin, je suis d'accord Seigneur, je dis oui, je ne garde plus ces mains dans les poches, je ne veux plus les cacher, ce que tu as mis en moi, je suis fière de l'avoir et je vais le donner plus loin. Et j'ouvre, je sors mes mains de mes poches et j'ouvre mes mains pour vraiment être à ton écoute et aussi entrer à suivre tes impulsions, à suivre ton mouvement, ce que toi tu me demandes de faire, de t'obéir et de poser les mains là où il y a besoin. Amen.
Oh, Saint-Esprit, descend.
Moi, je ressentais aussi que plusieurs d'entre nous avaient déjà expérimenté en fait d'être guéris par l'imposition des mains. Mais souvent que c'était des choses qui étaient en surface. Et avant que la musique va entrer dans ce temps et que David va vous inviter, je ressentais que pour beaucoup d'entre nous ce matin, c'était aussi important d'aller en profondeur. Il y a des choses qui sont enfouies en nous, qui sont plus difficiles à mettre à la surface. Aujourd'hui, c'est une invitation, une de plus, que Jésus nous offre. Saisissez-la.